ordures ménagères, est-ce qu'il n'a pas été envisagé de faire une taxe en fonction de la quantité de déchets des ménages, comme l'a mis en place Castaner? Est-ce que ça a été envisagé au Rotary, discuté ou pas?
Alors, envisagé, oui et non, parce que ce qu'a expliqué Michel, hein, il y a une baisse de recettes, une augmentation du coût de service, mais en plus, il y a aussi des règles qui changent. C'est-à-dire qu'on a obligation, vous l'avez vu, hein, c'est la mise en place qui a été faite là, du recyclage, notamment de tous les plastiques. On va avoir aussi tous les déchets, les biodéchets qui vont arriver d'ici à 2023. Il va devoir falloir trier. Prenez l'exemple, votre pot de yaourt. Le pot de yaourt, vous savez, le pot de yaourt. Et bien, c'est pas le même plastique que le reste. Et ça voudrait dire qu'il y aura une collecte différente. Ça veut dire qu'il va falloir s'organiser pour avoir une collecte différente pour ces biodéchets. Et ça veut dire que forcément, il y aura un coût. Et un coût supplémentaire qui va devoir être mis en place. Il y a aussi un élément important, vous connaissez tous l'incinérateur qui est au Mirail, il y a deux incinérateurs au niveau de la métropole, on va dire, hein, sur l'ensemble de la métropole, de la première et deuxième couronne, et en fait cet incinérateur est obsolète. Il est obsolète, ça veut dire qu'il va être, retravaillé. Alors, comment, où, à quel est, on ne sait rien encore pour l'instant, c'est un projet. Et ça veut dire que les coûts que l'on paye à l'heure actuelle pour éliminer nos déchets, ce sont des coûts qui ont été calculés il y a 10 ou 15 ans en arrière. C'est-à-dire que quand l'incinérateur va être remis en service, je peux vous garantir que le coût que l'on a payé il y a 15 ans, ça ne va pas être le même que celui qu'on va payer dans les prochaines années. Donc ça veut dire que le coût aussi, forcément, c'est nous qui allons payer cette différence-là. Donc tout ça fait que, pour revenir sur ce que disait Michel, notamment la convergence des taux, c'est pareil, on avait des taux qui étaient complètement disparates en fonction de nos communes, du fait de l'histoire, du fait du rassemblement des communes différentes, et on est en train aussi, pareil, de faire converger ces taux. Voilà. Donc ça veut dire que ça va nous coûter un petit peu plus cher. À tous, tout le monde va venir le plus cher.
Oui, par exemple, au niveau de la taxe d'ordure ménagère, aujourd'hui, on a un taux de 8,1%. On va passer à 9,5%. Et ça pourra monter à 9,5 ou 9,7 dans les années suivantes. Voilà. Donc, ça, c'est pour 2021. Et en 2022, il y aura d'autres mesures. Donc, ce que disait M. le maire, des discussions qui vont démarrer. Avec des mesures plus structurelles et d'organisation et de l'agglo et des services proposés ou non par l'agglo. Et il y a un élément qui est souvent qui revient, c'est également la partie voirie, parce qu'aujourd'hui l'agglomération aujourd'hui sous le coup de la voirie, c'est quelque chose qui pourrait revenir, je ne sais pas comment, mais dans les communes. Donc tout ça, c'est pour l'instant, on ne sait pas où ça va aller. Vous savez qu'à l'époque où Action Sud est passé avec la commune de Lantin, on a eu les transferts des services de l'année de la commune vers le Lantin. Pourquoi pas aussi quelque chose qui revienne vers les communes. C'est très flou et ça va donner des discussions très, très chaudes. Dans les mois qui viennent. Voilà. Donc maintenant, avec tout ça, on va parler du contexte communal. Donc là, je passe très vite sur la taxe d'habitation, parce que je vous ai dit quelques mots là, tout à l'heure, hein, avec en 2023, la suppression complète, y compris pour les 20% en moyenne hein, des ménages de Roc. Alors, sur ce changement au niveau de la taxe d'habitation va donc également entraîner une réforme au niveau de la perception de cette taxe. Donc déjà, lorsque la taxe est subie donc les dégrèvements dont on a parlé, jusqu'à 100% pour tout le monde en 2023. Donc la somme est compensée par l'État aux communes. Mais sont compensés sur des taux de référence qu'on avait en 2017, qui étaient plutôt de 8 et quelques. Bon, voilà. Donc, il faut savoir que la compensation n'est jamais à 100% et qu'il y a toujours une partie qui est gardée par l'État. Et donc, la commune ne reçoit pas directement la compensation. Donc, cette réduction au niveau des contribuables qui vont payer la taxe d'habitation s'applique sur les résidences principales. Donc, on continuera à percevoir un petit peu sur ce qu'on appelle les résidences secondaires ou alors d'autres locaux à usage d'habitation utilisés par des personnes morales. Voilà. Donc, sur les taux qui resteront pour les taxes qu'on va percevoir, ce sera des taux qui seront gelés au dernier taux de 2019. Ensuite, il y a un très joli graphique. Alors, qui montre un petit peu comment ça se passe, cette réforme de la taxe d'habitation. Donc, la taxe d'habitation ne sera plus perçue par les communes. Elle sera compensée donc par l'État, que ce soit pour les communes ou le gouvernement. Ensuite, on a également, dans la réforme des taxes, on a une réforme sur les taxes foncières. La taxe d'habitation qui est liée à la suppression des taxes d'habitation perçues par les communes ou l'eau. Donc la commune qui ne va plus percevoir la taxe d'habitation directement va être compensée par la taxe foncière qui était auparavant au niveau département. Donc on va recevoir sur les prochains avis de taxes foncières une taxe communale qui va être fusionné avec la taxe foncière du département, je l'expliquerai tout à l'heure avec un autre graphique. Et donc on va être compensé en recevant la taxe, partie de la taxe foncière du département. L'agglomération, lui, va recevoir de la TVA. Et le département qui n'aura plus sa taxe foncière, lui, va toucher aussi de la TVA de l'État. Bon, voilà, il y a toute une cuisine là pour un petit peu appliquer cette réforme et bientôt on va plutôt s'y reconnaître sur les taxes. Hein. Donc, comme je disais, la taxe foncière qu'on va toucher la commune va se rajouter au taux communal que l'on avait auparavant sur la taxe foncière. Mais en fonction des communes, il y a des communes qui vont trop recevoir de taxes foncières par rapport à ce qu'ils auraient besoin pour compenser la TH et d'autres qui vont recevoir pas assez. Donc il y aura un calcul qui va être fait et pour un petit peu réaligner tout ça de façon à ce que chaque commune ne reçoive que ce qui lui est élu au titre de la TH. Dans le cas de Rome, par exemple, on va recevoir en théorie une taxe foncière globale qui inclut également celle du département, qui sera beaucoup plus élevée que la taxe d'habitation qu'on devrait recevoir compensée. Et donc on ne recevra qu'une partie de ça. Il y aura un prélèvement qui va être fait par l'État et on n'aura que le socle. Donc ça, c'est un calcul, je crois que c'est sur la page suivante. Non, c'est pas sur la page suivante. Le calcul, je vous le montrerai tout à l'heure sur les pages un peu plus loin, quand on va parler des taxes. Là, on reste dans le contexte communal. Donc, on a rajouté dans cette présentation, le rapport d'orientation budgétaire, deux autres éléments. Alors, un premier élément, c'est le profil d'augmentation de la population à Rome, donc sur les 10 dernières années, avec les chiffres officiels de l'INSEE, et les 10 prochaines années. On a vu, lorsqu'on a fait une discussion sur le PLU et le PLD, on a vu qu'il y avait un certain nombre de résidences et de logements en résidence plus des logements individuels qui sont en cours. Notamment, des résidences qui ont été lancées depuis 2017, on a à peu près 568 logements qui vont être livrés. Il y en a deux qui ont déjà été livrés en 2019, un en 2020, une fois qui sont prévus cette année, et les autres sont prévus dans les 2-3 années suivantes. Donc ça entraîne une augmentation de population qui sera supérieure à 1000 habitants. Et à cela, il faut ajouter tous les logements individuels, ce qu'on appelle en diffus, sur l'ensemble de la commune. Alors la grosse partie est sur la partie est de la commune, du côté de la zone des lacs, Villeneuve, Fouzas, etc. Donc ça, c'est une tendance qui va avec les résidences déjà livrées ou en cours de livraison, donner une augmentation un peu plus importante dans les 3-4 années qui viennent. Et ensuite, pour essayer de réguler un peu ça, parce que l'augmentation est un peu plus importante que la moyenne qu'on avait l'habitude de voir, et aussi pour respecter les recommandations au niveau aglo, au niveau SCOT, etc. On va réduire un petit peu la courbe qui va rebaisser dans les 5 dernières années en tant que croissance, et pour atteindre, je dirais, un minimum de 6200 habitants dans les années 2031-2032. Ce chiffre peut être plus élevé. On a mis une petite courbe, une petite droite qui peut montrer, qui montre qu'on pourra avoir une tendance qui continue celle que l'on a actuellement, et qui pourrait donc faire arriver à 6500. Et on verra dans les années suivantes qu'il va falloir suivre ça de près et gérer cette augmentation d'habitants. Donc, bien sûr, ça aura un impact sur les budgets, les besoins d'investissement, de voirie, de réseau, d'assainissement, d'eau, etc. Donc un impact sur les besoins de financement de la commune. En parallèle de cette augmentation d'habitants, on aura également une augmentation au niveau des élèves dans les écoles primaires qui sont en charge de la commune. Et donc les prévisions, alors ce sont des prévisions, je dirais, statistiques. Après, c'est difficile de prévoir comment ça va évoluer dans les années qui viennent. Voilà. On a des familles aujourd'hui, beaucoup plus de familles recomposées. On a des logements qui sont plus grands, mais avec moins d'enfants par logement, parce que c'est la natalité a également diminué, mais aussi avec les familles recomposées, on a des enfants qui passent d'un logement à un autre, qui ne sont pas forcément sur la commune. Bon, voilà. Donc on a des prévisions statistiques avec une petite baisse au niveau de la natalité qui a été prise en compte. Et l'augmentation, on a aujourd'hui de l'ordre de 500 enfants qui sont à l'école entre Villa Treno et l'école mutualisée avec Villeneuve. Et on passerait à au-delà de 600-650 et vers 700 dans les 10 années qui viennent. Et ça, on verra ça au fur et à mesure des années. Donc d'où la nécessité d'anticiper et le projet de fonds scolaire qui a été défini et qui va être lancé. Et le lancement, on peut dire qu'il a été fait au niveau du projet avec les préambules. Qui a été fait au mois de mars, fin mars. Donc on aura une phase de transition avec l'école très beau, en attendant la mise en service de cette école. Là, dans la présentation, c'est marqué 2024, et l'objectif, c'est d'arriver à 2023, la rentrée 2023. On verra si c'est plus important.
Je vais juste attendre alors. Il faut attendre un petit peu.
Là, là je vais laisser Madame Bernier expliquer un petit peu le personnel communal. Alors, c'est très petit, on ne voit pas. Mais c'est la tendance qui est intéressante.
C'est un tableau qui est relativement statique. Est-ce qu'on pourrait avoir l'évolution entre 2020 et 2021? Est-ce que c'est possible pour le voir?
Alors, le problème, c'est que monsieur le maire nous a doté d'un logiciel de RHE, d'études RH, de stratégie RH. Seulement, je ne peux pas revenir en arrière.
Ah.
Voilà. Donc, vous l'aurez pour l'année prochaine.